Voilà, on est là. Privilège de vous apporter la parole de Dieu ici ce matin. Merci encore pour l'invitation. Comme c'est noté, c'est Romains chapitre 12. Je vous invite, si vous avez votre Bible, regardez Romains chapitre 12. Ça vient dans une série de messages que je prêche ces temps-ci sur Romains 12 jusqu'au chapitre 16, sous le thème de la gloire de Dieu, vivre comme son peuple libéré. Mais surtout ce matin, c'est, disons, le titre pour ce matin, c'est la vie agréable. La vie agréable que Dieu nous promet. Romains 12, donc. Je lis les deux premiers versets. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole. Que tu bénisses cet enseignement, que tu bénisses notre écoute et que notre intelligence et nos cœurs soient transformés par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, une vie agréable. Une vie agréable, j'imagine, on aimerait bien, chacun de nous, connaître une vie agréable. Et peut-être pour vous, votre vie est déjà agréable. Vous avez une belle carrière. La vie va très bien. Vous avez des amis que vous aimez beaucoup, avec qui vous passez du temps. Vous avez votre belle carrière, mais aussi un beau mariage, belle femme, beau mari. Merveilleux enfants, tout va très bien avec vos parents, vos frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous avez aussi une belle maison, une belle ville dans laquelle vous habitez, des belles vacances. Bref, la vie est belle, comme on dit. Mais pour d'autres, peut-être la vie n'est pas aussi belle parce que vous êtes toujours avec Vidéotron au lieu de belle. Vous n'avez pas catché la vie est belle? Non? Non, la vie, parfois, on souhaite que la vie soit encore meilleure, n'est-ce pas? Un peu plus agréable. Pas la vie parfaite, on reconnaît que la vie n'est jamais parfaite. Mais une vie, ça peut aller mieux dans nos relations, travail, santé et autres. Une vie agréable, voilà ce qu'on souhaite. Le texte ici qui est devant nous parle d'une vie agréable. À deux reprises, on a lu le mot agréable. Et on aimerait avoir cette vie qui est agréable pour nous tous, mais là, il faut faire attention parce que la vie agréable est définie par qui? Qui détermine ce qui est une vie agréable? Et le texte nous dit, on parle de notre corps, votre vie, agréable à Dieu. La volonté de Dieu qui est agréable. C'est Dieu qui nous dit ce qui est agréable, ce que Dieu approuve, ce qui plaît à Dieu. Et si ça plaît à Dieu, c'est agréable à Dieu. Ça va être une vie agréable pour moi, une belle vie pour moi. Mais là aussi, il faut aller plus loin parce que ce n'est pas simplement pour moi. Le texte dit « vous » et « vous » veut dire « nous ». La vie agréable pour nous, le peuple de Dieu. On va explorer le texte et le thème qui est devant nous, une vie agréable. Dans un premier temps, il faut revenir et nous rappeler les compassions de Dieu. Donc, un premier temps, les compassions de Dieu. Ensuite, de parler de notre vie et surtout notre corps, votre corps, offert à Dieu, mais dans un troisième temps, nous rappeler que vous veut dire nous, vous égale nous. Si vous lisez Romains chapitre 1 à 12, arrivant au chapitre 12, vous pouvez peut-être vous dire, mais à quoi bon de lire les 11 premiers chapitres? On arrive au chapitre 12, si vous continuez la lecture, c'est un beau chapitre qui parle beaucoup de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très pratique, terre à terre, les textes qu'on aime beaucoup. Puis parfois, on se demande, mais pourquoi lire les 11 premiers chapitres, surtout 9 à 11, c'est difficile, on ne comprend pas tout. Mais l'apôtre Paul nous explique dans la première phrase qu'il écrit, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Je vous encourage, ou même j'exhorte, l'apôtre Paul donne une exhortation aux chrétiens, il les invite, il les exhorte vraiment à vivre par les compassions de Dieu. L'apôtre Paul aurait pu exhorter avec son autorité comme apôtre. On peut vivre et chercher cette vie agréable parce qu'on a peur de l'autorité de l'apôtre ou même l'autorité du pasteur ou des anciens. On ne veut pas décevoir les anciens. Mais ce n'est pas ça la motivation pour la vie chrétienne. Ce qui motive la vie chrétienne, c'est les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, les miséricordes de Dieu. Où est-ce que nous apprenons sur les compassions de Dieu? Et justement dans les chapitres 1 à 11. Dans ces premiers chapitres, c'est l'apôtre Paul qui nous explique l'Évangile, la bonne nouvelle des compassions de Dieu, la bonne nouvelle de la justice de Dieu en Jésus-Christ, comme on peut lire chapitre 1, le verset 16 déjà. On n'a pas le temps ce matin pour réviser ces 11 premiers chapitres, mais j'aimerais qu'on révise un aspect des compassions de Dieu envers nous et notre vie, surtout en lien avec notre corps. Si vous avez votre Bible, regardez chapitre 8. Chapitre 8, c'est le texte sur la sanctification. Nous expliquer comment Dieu nous sanctifie, nous rend de plus en plus saints, agréables à Dieu, vivre dans la vie et l'obéissance, l'amour de Dieu, de plus en plus comme Jésus qui est saint, et ça par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous est donné. Puis regardons surtout le verset 9 à 11. Romains 8, le verset 9 à 11. Cette vie, par le Saint-Esprit, qui libère notre corps, pour que notre corps soit offert à Dieu. Écoutons, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, c'est-à-dire par le péché qui habite en vous. Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit Saint, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, grâce au Saint-Esprit, si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui Dieu qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Nous sommes appelés à offrir notre corps à Dieu. Mais notre corps est encore pris par le péché. Faible. Faible dans le péché. On a des désirs qui luttent contre la volonté de Dieu, des désirs de notre corps qui luttent contre Dieu. Parfois, on est fatigué. Parfois, notre corps est rebelle contre Dieu. Mais le texte nous rappelle les compassions de Dieu, que Dieu rend la vie à votre corps. Votre corps est ressuscité par le Saint-Esprit pour que votre corps soit vivant et alors on peut l'offrir à Dieu. Dieu rend la force à votre corps pour que vous puissiez résister aux péchés et aux tentations et offrir votre corps agréable, saint Dieu. Vous êtes appelé à offrir votre corps à Dieu. Et vous êtes capable, grâce aux compassions de Dieu en Jésus-Christ, Jésus qui est ressuscité, le Saint-Esprit qui vous habite. Nous sommes appelés à croire cette vérité afin de rendre notre vie à Dieu. Et parfois, on a un peu de difficultés. Parfois, on est vraiment dans les luttes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ranimer cette foi, ranimer cette espérance en nous, cette compassion? Mais c'est de revenir constamment à l'Évangile de Jésus-Christ, à lire et relire les Écritures, surtout ces textes comme Romains 1 à 11, se rappellent de la bonne nouvelle, l'Évangile de la justice de Jésus-Christ. Il faut les lire et l'écouter à plusieurs reprises, mais aussi il faut prier. Et prier que Dieu suscite en nous, notre corps, ses compassions de Dieu. Et parfois, quand c'est trop difficile à prier, qu'on n'a pas les mots, on n'a pas la tête pour se concentrer et prier, c'est bien de prendre des chants. Prendre des textes, des chants et prier les chants pour que Dieu ramène en nous son esprit, la force de son esprit. Ainsi, Dieu, par la foi, l'espérance, va rendre notre corps une vitalité. Et nous pouvons l'offrir à Dieu. On revient dans notre texte, notre corps qui est offert à Dieu, Romains 12, 1 à 2. Cette exhortation qui est devant nous, on veut la regarder un peu plus en détail, examiner quelques détails. Je reviens donc versets 1 et 2, chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pour décrire la vie chrétienne, l'apôtre Paul prend l'image d'un sacrifice. Nous sommes appelés à offrir notre vie comme un sacrifice à Dieu. Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, grâce à Jésus-Christ. Et on présente notre vie comme un cadeau à Dieu. un sacrifice qui est agréable à Dieu, qui réjouit le cœur de notre Dieu. Et là, nous savons très bien que nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Jésus qui a offert sa vie en sacrifice. Mais sa vie, son corps a été offert en sacrifice mourant. Nous, notre sacrifice, c'est un sacrifice vivant. Jésus, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire pour expier, payer la dette de nos péchés. Pour nous, notre sacrifice n'est plus pour payer la dette de nos péchés, c'est plutôt pour remercier Dieu qu'il a payé la dette de nos péchés. Remercier Dieu pour la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Si vous connaissez bien le livre des Lévitiques, probablement pas trop, beaucoup de sacrifices. Sacrifice pour les péchés, expier les péchés, mais aussi des sacrifices de communion ou des sacrifices de reconnaissance. Ça, c'est nos sacrifices. Nous remercions Dieu pour le sacrifice de notre corps. Mais c'est quand même des sacrifices, n'est-ce pas? Vous savez c'est quoi les sacrifices à faire dans la vie? Vous avez fait des sacrifices pour avoir une carrière. Sacrifice de voyage afin d'acheter une maison à la place. Sacrifice pour payer les études de vos enfants. Sacrifice que vous avez fait pour un but plus grand. Et oui, nous faisons des sacrifices. Ces paroles de Paul nous rappellent ce que Jésus lui-même a, ce que Jésus lui-même a dit. L'évangile de Marc, chapitre 8, par exemple. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. On est appelé à faire des sacrifices pour suivre Jésus. Et surtout le sacrifice de notre corps. On lit encore le fin de verset 1. À offrir votre corps comme un sacrifice. Il y a parfois des traductions, des interprétations qui disent le corps ici, ça fait référence à la vie tout entière du chrétien, ce qui est juste. Parfois on dit que ce texte c'est une exhortation à faire le don de soi. C'est encore juste. Mais je crois que c'est mieux de garder dans notre traduction et dans notre esprit le mot corps. Parce qu'ici, on parle de notre corps en chair et en os. Et ça, c'est pour contrer les religions d'Antiquité encore aujourd'hui, des religions mystiques, où ce qui est important, c'est l'esprit et l'âme. Ce qui est moins important, c'est ce qui est matériel, notre corps. Yoga, parfois aussi, va dans le même sens. Pour nous, les chrétiens, ce qui est important, c'est l'âme et le corps. On nous rappelle la vision chrétienne, la vision biblique de l'humanité, que Dieu nous a créés corps et âme à son image, que notre corps et notre âme est tombé dans le péché, et que c'est Jésus-Christ qui est venu corps et âme, chair et en os comme nous, afin que par sa sacrifice, sa mort, sa résurrection, nous pouvons être renouvelés corps et âme à l'image de Jésus-Christ. Toute notre vie, corps et âme, notre chair et nos os, sont aussi pour la gloire de Dieu. Et ce sacrifice est décrit ici dans le texte, trois adjectifs pour décrire le sacrifice de notre corps. Un sacrifice qui est vivant, pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant, serviable. Un sacrifice qui est saint. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Quelque chose donné à Dieu, séparé du péché, de l'immoralité, de tout ce qui est rebelle contre Dieu. Plutôt dédié à Dieu, vivre comme Dieu qui est saint. Un sacrifice qui est aussi agréable à Dieu. Approuvé par Dieu, qui plaît à Dieu. Et si ça plaît à Dieu, ça, c'est un sacrifice qui réjouit nous-mêmes, nous réjouit. Un tel sacrifice, dans notre texte, est aussi appelé un culte. On est ici pour un culte, rendre gloire à Dieu. Un culte, c'est pour louer notre Seigneur, honorer Dieu, adorer Dieu. Notre corps est aussi pour glorifier Dieu. Notre traduction dit un culte raisonnable. Il y en a d'autres qui disent un culte spirituel, dépendamment des traductions. Culte spirituel, ça veut dire non pas un culte des rites, comme on le connaît parfois dans le milieu catholique, mais un culte qui est en esprit, en vérité, offert à Dieu. J'ai une préférence pour la traduction culte raisonnable, c'est-à-dire un comportement qui est réfléchi, qui est vrai, authentique. Et donc, nous sommes appelés à ces cultes raisonnable de notre corps, un culte qui réfléchit ce sacrifice qui plaît à Dieu, mais aussi un culte raisonnable qui ouvre la porte sur la manière d'offrir notre corps, un culte qui est raisonné, réfléchi pour plaire à Dieu. Comme cela expliqué plus en détail au verset 2. Verset 2, ce culte raisonnable est expliqué avec deux ordres, deux commandements, conseils. d'abord négatif et ensuite positif. D'abord, il nous dit ce qu'il ne faut pas faire, un ordre négatif, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Quand on lit le mot ici, traduction monde actuel, monde, ça ne fait pas référence à la création. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Le mot monde, ou parfois d'autres traductions, siècle ou ère, ça fait référence à ce monde, ce qui est en rébellion contre Dieu. Jésus est mort pour nous racheter, nous sauver de ce monde, de ce siècle, pour nous préparer au siècle à venir, le nouveau monde que Dieu prépare pour nous. Alors nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce qui est en rébellion contre Dieu. Jésus nous a libérés de tout ça. Pourquoi y vivre encore? Rébellion dans la sexualité de notre époque, sexualité où on a toute liberté de faire tout ce qu'on veut au lieu de suivre ce qui est le conseil de Dieu. Un homme et une femme unis ensemble pour la vérité, pour la vie, et vivre la plénitude de leur sexualité ensemble. On ne se conforme plus à ce qui est aux attentes du monde. On est plutôt positivement appelé à faire ceci. Mais soyez transformés. Transformés. Transformer, c'est le même mot pour métamorphoser. Métamorphoser, un charbon qui devient un diamant. Un changement incroyable, qui souligne aussi un changement durable, qui reste, qui ne revient pas en arrière. Dieu nous appelle à une transformation, un changement qui est durable et pour la vie, pour l'éternité. Mais transformer vers quoi? Le texte ne dit pas directement. Si on ne connaissait pas le texte, on dit « transformer à l'image de Jésus-Christ », ce qui est juste. Mais le texte met moins d'emphase sur le but que sur le moyen. Comment être transformé? Comme on lit, « soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence ». On veut un changement de notre comportement. Mais le changement de notre comportement passe par un changement de notre façon de penser. Ici, on a un appel à faire attention parce que parfois, nous, chrétiennes, on veut vivre par nos sentiments, nos émotions, notre intuition. Ce qu'on pense est bon, ce que Dieu m'a dit, ce que mon cœur m'a dit. Puis oui, il faut que ça vienne de notre cœur. On a besoin d'une foi, une vie chrétienne authentique qui vient de notre cœur. Mais on oublie que le cœur est transformé par le cerveau. Le cœur, notre cœur est transformé par le cerveau, par notre intelligence. Dieu passe par l'intelligence, change notre façon de penser pour que notre cœur soit changé, convaincu et se comporte autrement. Parce que par nature, nous n'avons pas les pensées de Dieu. Par nature, pécheresse, nous ne pensons pas comme Dieu. Et alors, nous avons besoin d'être transformés pour penser comme Dieu, comme dit le texte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu qui nous apprend ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Mais ce n'est pas très loin. C'est ici, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour notre vie, c'est déjà expliqué, écrit pour nous qu'on puisse le lire, l'étudier. La volonté de Dieu, c'est surtout dans les commandements de Dieu. Commandement éthique, la loi morale de Dieu. C'est à ça que l'apôtre Paul fait référence. Si on dit, qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Je reviens aux Écritures. Ça, je sais que Dieu le veut. Mais ça prend aussi un discernement. Parce que pour bien comprendre et surtout appliquer, mettre en pratique la volonté de Dieu, mettre en pratique la loi morale, les commandements de Dieu, il faut un discernement, discernement de notre situation, discernement de comment prendre les commandements, l'appliquer dans notre vie de tous les jours, discernement de la direction du Saint-Esprit dans notre vie, discernement à travers la prière. Et donc, c'est bien constamment de discerner quelle est la volonté de Dieu. Moi, je trouve que j'ai un privilège d'être un pasteur. Parce que je suis constamment appelé à être dans la parole de Dieu, lire et étudier les Écritures, lire les commentaires. Je suis aussi appelé à lire les livres sur la vie chrétienne. Je lis beaucoup de textes, ça me fait plaisir, ça m'apprend beaucoup. Mais aussi, j'ai le privilège de rencontrer les chrétiens pour savoir comment eux, ils vivent la vie chrétienne, comment ils mettent en pratique. Moi, je me suis marié à 22 ans. Célibataire, je n'étais pas trop longtemps. Rencontrer les célibataires à 25 ans, 30 ans, 35 ans, commence à comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien célibataire. Merci, Seigneur. Et vous pouvez avoir le même privilège d'être dans les Écritures, dans des bons textes à lire, des commentaires, des livres sur la vie chrétienne, mais aussi de parler les uns avec les autres afin qu'ensemble nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu et comment la mettre en pratique dans notre vie, dans nos vies. Dernier commentaire sur le texte avant d'aller plus loin dans l'application, c'est que tous les verbes sont autant présents. Dans la langue grecque, je parle. Dans le texte original en grec, tous les verbes sont autant présents. Et c'est important parce que le temps présent dans la langue grecque veut dire continuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie, c'est fini, j'ai transformé mon intelligence, j'ai lu la Bible une fois, je suis allé à l'école biblique une fois, c'est fini. Non, c'est tout au long de notre vie que nous sommes appelés à transformer notre intelligence et offrir notre corps comme un sacrifice à Dieu, chaque jour de notre vie, toujours. Si en lisant ce texte, un texte que j'imagine vous connaissez très bien déjà, si en lisant ce texte, votre réponse est « Oui, je suis convaincu. Moi aussi, je veux offrir mon corps, ma vie à Dieu. Je veux être davantage dans la parole de Dieu. Je veux davantage discerner la volonté de Dieu pour que ma vie soit un sacrifice agréable à Dieu. » C'est merveilleux. Merci, Seigneur. Si ce n'est pas votre cas, si vous êtes encore dans une résistance, je vous invite à prier le Saint-Esprit qu'il vous donne cette conviction, de prier qu'il vous donne ce désir de vivre pleinement les compassions de Dieu en Jésus-Christ. Mais encore pour nous qui avons ce désir, je dis, oui, je veux offrir ma vie davantage à Dieu. Je dis, merci, sauf qu'il faut aller plus loin. Parce que regardons bien le texte. Qu'est-ce que nous lisons? L'apôtre Paul écrit, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. C'est dommage, notre traduction l'a mis au singulier, c'était au pluriel dans le texte grec. Offrir vos corps comme un sacrifice. Verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Vous soyez transformés. C'est toujours vous, et pas toi. Et parfois, en lisant les textes, vous, comme chrétien, dans la réponse, on dit, ah oui, moi, je dois répondre ainsi. Dans les pires des cas, on dit « toi », parce qu'on pense à une autre personne, un autre chrétien qui a vraiment besoin d'écouter ce texte. Ça, c'est pas bon. On dit plutôt « moi ». Mais notre réflexe devrait être plutôt « nous ». Nous. Soyez transformés. Alors, nous voulons nous soyons transformés par la parole de Dieu. Vous égale nous. Et pourquoi j'y insiste? Parce que la vie chrétienne n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Okay? La vie chrétienne n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Vous écoutez les Olympiques, j'espère que vous en profitez. C'est plaisant de voir des sports extraordinaires, ce qu'on est capable de faire avec le corps humain. Waouh, c'est incroyable. Je ne connais pas tous les sports, mais je connais le soccer. Mes enfants jouent au soccer, mieux que leur père, ce qui est bien. C'est facile aussi en passant, mais les joueurs de soccer, c'est un sport d'équipe. Mais il y a ce qu'on appelle le freestyle. Ceux qui jouent au soccer avec un ballon de soccer, qui apprennent à maîtriser le ballon de manière incroyable. C'est important. C'est des techniques de maîtrise du ballon. De dribbler, conduire un ballon, arrêter, botter le ballon. Incroyable. Botter le ballon, puis ça fait un virage, entrer dans le but. Incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Mais disons qu'on a 15 hommes qui arrivent pour jouer un tournoi, 15 hommes de freestyle, très bonne technique, qui arrivent pour jouer un tournoi et cherchent à gagner le tournoi, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Ça ne marche pas. Le soccer, c'est un jeu, un sport d'équipe. Il faut travailler ensemble, il faut former une chimie entre les joueurs pour qu'ils se connaissent l'un et l'autre et comment ils jouent l'un et l'autre, pour que je ne vois pas mon coéquipier, mais je sais qu'il est à ma gauche parce qu'il est toujours prêt à recevoir une passe. C'est un sport d'équipe, on travaille ensemble. La vie chrétienne est un sport, pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Nous formons une équipe, nous sommes une famille, frères et sœurs. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et alors, vous égale nous, aussi avec le pasteur et les anciens. Si je reviens donc notre corps comme un sacrifice offert à Dieu, nos corps offerts comme un sacrifice de reconnaissance envers Dieu. Pensez-en un peu plus. Notre vie chrétienne, notre vie en famille avec notre corps, surtout comme une église locale. Parce que notre vie chrétienne est bien vécue, notre corps avec nos corps, corps avec corps. Mais parfois aussi dans la vie chrétienne et la vie en église, c'est peut être parfois un corps contre corps. Je l'explique. Corps avec corps, c'est quand on donne un câlin pour encourager quelqu'un qui passe par un moment difficile. Corps avec corps, c'est quand on partage ensemble un repas. Corps avec corps, ça veut dire qu'on va aider un frère et une sœur à déménager. Corps avec corps, on va écrire une carte pour encourager, rendre visite à celui qui est malade ou seul. Ça, c'est nos corps avec notre corps offert comme un sacrifice à Dieu pour nous encourager à vivre la foi chrétienne ensemble. C'est magnifique. Mais ça nous arrive aussi à vivre le corps contre corps. Ça veut dire des choses qui nous dérangent. On est en train de prendre notre café après le culte, puis les enfants qui courent partout. Je ne sais pas pour vous, mais dans notre église, parfois, ça dérange des gens dans l'église parce qu'ils nous bousculent pendant qu'on est en train de discuter. Notre corps qui n'est pas la plus grande beauté au monde. L'autre corps n'est pas la plus grande beauté. C'est difficile à voir, c'est défiguré ou quoi. Ou parfois, c'est l'inverse. Le corps de l'autre est tellement beau, c'est attirant, mais ce n'est pas notre corps à nous. Ou le corps de l'autre, surtout sa langue, qui parle sans cesse. On n'a jamais l'occasion de dire quoi que ce soit. Ou l'autre, sa langue ne parle jamais. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pense. Lui a des oreilles, mais il n'entend rien, il n'écoute pas. Elle a des yeux, mais si tu regardes dans les yeux, tu vois l'orgueil, colère, tristesse. Lui a des pieds. Il n'arrête pas de bouger. Toujours en train de faire quelque chose. Ne peut pas s'asseoir. Mais l'autre a des pieds et ça ne bouge pas du tout. Il faut lui donner un coup de pied. On aimerait. On ne peut pas. Voilà qu'on vit parfois dans l'église nos corps contre corps. Et nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant envers Dieu. Et j'ose dire, quand notre corps est contre corps, c'est les moments où le Seigneur travaille le plus pour que notre corps soit un sacrifice, nos corps soient des sacrifices agréables à Dieu. Comme dit le proverbe, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. On est en contact, notre corps contre le corps de l'autre, et c'est là où le Seigneur travaille pour que nous soyons des sacrifices vivants, d'apprendre l'un de l'autre comment vivre ensemble. C'est ainsi que nous avons besoin comme Église d'être ensemble. D'être ensemble, rester ensemble, vivre ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble, soyez transformés ensemble dans notre intelligence, discerner ensemble comment mettre en pratique la foi et la vie chrétienne, tous ensemble, pour que nous puissions aimer l'un et l'autre. Aimer l'un et l'autre et aussi le corps de l'autre. Et pourquoi sommes-nous appelés à ça? Parce que le corps de l'autre a reçu les mêmes compassions de Dieu que moi j'ai reçues. Le corps de l'autre a reçu les mêmes compassions de Dieu que les compassions que Dieu a eues envers moi. Et si Dieu a eu tellement de compassion envers l'autre et son corps, moi aussi je devrais avoir de la compassion pour lui. Je l'aime comme Dieu l'a aimé en premier. Et si nous aimons ainsi, et si nous aimons ainsi, si nous vivons ensemble de plus en plus, notre corps avec le corps pour servir l'un et l'autre, ça va être de plus en plus une vie agréable. Une vie agréable d'abord à Dieu notre Père qui nous aime et crée et rachète corps et âme. Une vie agréable pour nous tous, pour que nous puissions vivre cette vie libérée par Jésus-Christ. Et là, on aura la belle vie. Une belle vie pour nous les croyants. La vie est belle parce que Dieu a eu compassion de nous et de nos corps. Amen.